C'est parti pour la nouvelle édition du Festival Les Inouïs qui fête son 10e anniversaire cette année. L'association Musique en Roue Libre, à l'origine de ce festival, propose jusqu'au 28 août au public arajois et d'ailleurs la découverte de la grande musique de manière à la fois originale et expérimentale. Et cette 10e édition sera à la fois marquée par le jeu, la gourmandise, les correspondances, les retrouvailles, l'audace, la volupté et l'humour. Cet événement est aussi l'occasion de rencontrer des artistes souvent hors normes et de partager avec eux des moments inoubliable. Pour l'occasion, Radio PFM et Musique en Roue Libre se sont associés pour vous faire vivre cette aventure de l'intérieur. Et au cœur de l'hôtel de Guine, en lieu et place des écuries, le 99.9 y a posé son studio mobile pour permettre aux artistes de venir parler de leur travail, jouer de leurs instruments parfois et s'exprimer sur les vibrations musicales qui se dégagent de cette 10e édition. Aujourd'hui, on accueille Franck Kravzik et Nicolas Worms, deux compositeurs avec qui on va évoquer le travail, la façon d'aborder la musique et découvrir une œuvre hors du temps. Et pour cet entretien, je serai accompagné de Damien, bénévole de l'association, pour animer ce temps fort. C'est lui qui ouvre le bal pour évoquer ce fameux mariage entre Radio PFM et Musique en Roue Libre.
Je travaille donc sur le festival Les Inouïs, qui est un festival de musique classique implanté depuis 10 ans maintenant sur l'Arajois. Et dans ce festival, cette année, on a décidé de faire un partenariat avec Radio PFM. Et donc on allait les voir, toc toc toc, on est vos voisins. Et ça nous plairait de faire un truc avec vous, truc qu'on n'a pas encore tenté parce qu'on se dit, passer la musique classique dans une radio rock, on va le faire. Et donc, on a installé avec nos petits bras un petit studio mobile au sein de l'hôtel de Guine, donc dans l'écurie, puisque cette année, tout le festival est installé là-bas. Et donc, on y a invité PFM et on s'est dit, on va aller choper un compositeur par-ci, un compositeur par-là. Et là, bingo, j'en ai deux. Donc, j'ai Franck Kravzik, qui était le compositeur invité de la 9e édition, qui revient cette année avec de nombreuses surprises, et Nicolas Worms, qui était un jeune compositeur qu'on avait découvert l'année dernière, notamment autour du projet Marguerite, qui était venu en parler l'année dernière à PFM, ouais. Et qui cette année va s'occuper de l'Académie. Donc l'Académie, c'est 61 jeunes qui vont venir travailler à l'internat de ville et au lycée Robespierre. Et Nicolas va s'en occuper pour faire un stage d'orchestration. Donc on va peut-être commencer par Franck Kravzik.
Alors Franck Kravzik, donc on va parler un petit peu de cette représentation inspirée de Songes d'une nuit d'été.
Donc, alors là, non.
Non ?
Ben non, en fait,
pas du tout.
C'est l'avantage de la musique écrite aujourd'hui, c'est qu'on n'écrit pas celle que vous prévoyez.
Ouais.
donc non, en fait, j'ai pas été dans cette direction. Quand j'ai découvert le cloître du musée, donc des Beaux-Arts, j'ai préféré orienter la création vers l'espace du cloître lui-même. Donc j'ai écrit pour l'espace lui-même.
D'accord.
Donc, c'est une pièce pour 12 violoncelles réparties tout le long du cloître. Enfin, exactement 13 violoncelles, un dans le péristyle et 12 qui sont donc autour. Et c'est une musique... on n'est pas devant, c'est-à-dire que d'habitude, quand vous écoutez de la musique, vous avez des musiciens devant vous et voilà, puis vous attendez que ça se passe. Là, vous êtes dedans, c'est-à-dire que vous circulez à l'intérieur de l'œuvre et vous pouvez marcher. L'œuvre dure 25 minutes. Vous pouvez marcher pendant 25 minutes sans évidemment aller trop loin dans l'exploit sportif. Mais enfin, vous pouvez faire ce que vous êtes à l'intérieur de l'œuvre et vous la vivez complètement différemment. Voilà. Pour les musiciens, c'est extrêmement précis. Et c'est une tension d'écoute, c'est-à-dire qu'eux, en fait, ils jouent quelque part avec le public. C'est-à-dire, si le public se place là ou fait un bruit là, ils vont décaler un tout petit peu ce qu'ils ont à faire. Mais en fait, on a travaillé la pièce, là on vient de la faire en répétition générale, elle est donc maintenant proposable. Mais elle existe, on va dire, d'une manière extrêmement précise, avec une partition notée, mais adaptable aux circonstances en fonction du public.
Alors, une question qui me vient à l'esprit, quand on s'adapte à un lieu comme le cloître, hein, au niveau de l'acoustique, comment ça marche ? Est-ce que ça fonctionne à chaque fois parfaitement, ou alors il faut...
Vraiment, je suis venu en amont dans l'année, j'ai eu la chance de... Enfin, Fabrice m'a fait découvrir le cloître. j'ai mis 3 mois à réfléchir à quoi proposer pour ce lieu-là. Ça ne peut pas marcher ailleurs.
Mmh. D'accord.
Donc c'est vraiment, les moindres sons sont portés. Si vous voulez, les gens ont envie d'écouter ça. Le moindre son là, à la durée qui correspond à la géométrie, à l'architecture du cloître. Si jamais vous le faites dans un autre cloître, il faudra trouver une autre œuvre. Ah oui, non, mais c'est vraiment, vraiment c'est passionnant au niveau musical. Mais ça nous ramène à... Parce que je pense que c'est... Je suis bavard, mais bon. Nicolas peut abonder dans ce sens-là. C'est évident que on est souvent brocardé ou on est souvent stigmatisé avec la musique classique comme je ne sais pas quoi, comme si on était de la préhistoire ou c'est tout juste si jamais on ne nous voit pas en perruque ou je ne sais quoi. Ça n'a rien à voir. On vit dans les mêmes espaces que tout le monde. On a les mêmes réflexions que tout le monde. On écoute pratiquement la même musique que chacun des gens qui vous écoutent. Et il se trouve que notre parcours nous amène à penser les choses, on va dire, un peu différemment, mais guère plus. En tout cas, les réflexions sont les mêmes. Moi, j'ai les mêmes réflexions sur le lieu qu'un rocker. D'ailleurs, je parle avec eux de ça. Mmh. Quand ils commencent à sonoriser un lieu, ils se posent des questions vraiment fondamentales. Et quand on pense aux expériences des Pink Floyd à Pompéi ou je ne sais quoi, on imagine à quel point la force du lieu est quelque chose de déterminant pour la musique, pour un musicien rock. Et quelque part, pour moi, c'est exactement la même trajectoire. J'ai été obligé de composer quelque chose pour un site qui me fascine. Bon, alors évidemment, le langage n'est pas exactement celui qu'on a l'habitude d'entendre. Mais c'est, à part ça, c'est les mêmes préoccupations.
Avant de retrouver nos invités, on va placer nos oreilles dans un écrin majestueux en écoutant un extrait de Futur Antérieur, pièce composée par Frank Kravzik et qui a été jouée dans le cloître du musée d'Arras avec l'interprétation fantomatique de la soliste Yumiko Tanimura. Une expérience hallucinatoire, envoûtante, hypnotique et intemporelle.
Il y a des lieux que vous aimeriez justement vous approprier pour...
J'en ai fait beaucoup. Hein? C'est vraiment ma chance. J'ai beaucoup travaillé avec l'art plastique. Et eux, ils sont vraiment complètement... c'est pas qu'ils sont... Alors nous, on est considérés comme passéistes, on va dire. Eux sont considérés comme azimutés. Donc les lieux, dès qu'un lieu est déstructuré, cassé, une usine en faillite, un truc défait, le plus impossible possible pour mettre de la musique, c'est là où ils veulent aller. Donc j'ai fait le métro, j'ai fait enfin des stations de métro, il fallait animer une station de métro avec 5 accordéons et des ghetto blasters, enfin des espèces de petits radio portables.
Désaffectés ou avec encore du public dans les stations de métro?
Non, dans la station là c'était les Champs-Élysées parce que c'était pour Monumenta et il D'accord. fallait absolument que les gens qui aient accès à l'exposition ensuite aient entendu la musique mm-hmm. un peu avant pour que ça agisse sur eux comme une sorte de mémoire en disant ah mais je l'ai entendu ça, c'est le pauvre type du métro qui joue l'accordéoniste là voilà, qui a un effet de mémoire entre les deux. Et ça a marché, c'est-à-dire que les gens ont traversé ce métro qui était animé de la même musique. C'est à chaque fois que vous prenez un couloir, vous aviez le type qui jouait la même chose, qui quand même est troublant. Je ne sais pas si vous allez dans le métro à Paris, mais en général, vous avez des musiques différentes. C'est la concurrence. C'est-à-dire vous devez donner à celui qui joue de la flûte de pan un peu plus que celui qui joue du violon. Ben là, ils jouaient tous de l'accordéon, la même chose. Troisième de Mahler, comme s'ils s'étaient mis d'accord. D'un seul coup, ça devenait une espèce d'orchestre déployé dans le... Voilà. Et au bout du compte, ils jouaient la musique qui allait avoir lieu pour les gens qui se rendaient à l'exposition, qui allait avoir lieu sous la forme d'un concert, ensuite, réellement. Donc les gens connaissaient l'œuvre. C'est une création que les gens avaient un peu entendue avant qu'elle soit créée. Donc ça, c'est des idées de plasticiens, mais à faire, c'est bien complexe. Hein. Et je ne vous parle pas, alors le Châtelet, on a fait des choses dans... Enfin, de toute manière, c'est très simple. Quand vous demandez à un plasticien... Par exemple, c'était mon cas. À un moment, j'ai joué par malheur, qu'elle le dire, la troisième symphonie de Mahler. À l'accordéon, je jouais ça, un petit bout. Et je dis rien, je dis ça, il me demande de jouer, je joue. Et une fois que j'ai fini de jouer, il me dit, est-ce que ça t'intéresse de le rejouer? Je dis oui, parce que pour n'importe quel musicien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et sauf qu'il m'avait oublié de me préciser une chose, c'est que j'allais le rejouer 6 mois plus tard, à Dijon, dans un endroit désaffecté, avec, juste il m'avait oublié de me dire, moins 2 degrés, pendant 3 heures sans s'arrêter, et sur une estrade non chauffée. Il m'a dit, c'est juste pour avoir l'image de quelqu'un qui, quel que soit ce qui se passe dans le monde, entretient une musique.
Mais c'est une performance. Hein,
Ça devient une performance. Oui, mais enfin bon. Et de fait, c'est une des plus grandes expériences de temps musical de ma vie, c'est-à-dire que je suis sorti de là en étant persuadé qu'il avait mis la main sur une chose, mais vraiment contemporaine. Les gens sont... Moi, je suis peut-être fou d'avoir joué ça, mais il y a encore plus fou que moi. Il y a le type qui m'a écouté 3 heures. Et il y a quand même... J'ai vu des gens se mettre en face et pas quitter. Je dis, mais partez, il fait froid. Eh ben non, ils étaient absolument en contact avec quelque chose que je ne savais pas que la musique pouvait produire. Et là, je vais passer la parole à Nicolas, parce qu'au fond... ce que j'aime beaucoup dans sa démarche, c'est que on est, en fait, faut vous dire qu'on ne sait pas grand-chose de ce qu'est la musique. On ne sait rien, ni de ce qu'est le rock. On ne va pas déterminer, dire la musique contemporaine c'est ci, la musique classique c'est ça. C'est pas vrai. Il est comme moi dans l'inconnu. Et si on fait des transcriptions, c'est qu'on essaie avec un compteur Geiger de comprendre ce qui se passe dans ce qui nous atteint émotionnellement. Et par moment. Eh bien, un jour, on va dire, ah ben, c'est plutôt ça, ça va donner tel angle, donc une transcription, et puis un autre jour, ça va être totalement différent, et ça va en donner une autre. Et c'est tous les deux sont vrais, complètement. Ça peut devenir, la Marguerite pourrait très bien, et je sais qu'il se l'interdit peut-être, mais un jour il le fera, une œuvre rock. Ça n'a absolument aucun problème. Parce que un jour, ça sera ça, le ressenti de cette musique. Donc, nous, on avance un peu à l'aveugle, on propose quelque chose. Ça plaît pas, c'est une autre chose. Mais on est vraiment empirique, on est expérimentaux. On est dans quelque chose qui... On n'est pas sur la certitude, on n'est pas... Ça, on sait, c'est beau, et si vous n'y comprenez rien, c'est que vous êtes idiot. Non, c'est pas ça. C'est on ne sait pas où on va, et on a besoin de votre avis pour savoir quelque chose de là où on est. Mais c'est vraiment cette... faut l'imaginer comme ça. Faut vraiment pas penser que les musiciens classiques savent et que vous ne savez pas. Ils savent rien. Enfin, on est tous à égalité.
Je le confirme. Voilà.
Ben voilà, la musique, ça s'écoute aussi avec les oreilles, mais aussi avec le corps et donc la perception. Donc du coup, transition, ben voilà, on va passer la parole à Nicolas qui va nous expliquer un petit peu ses trajectoires.
Et ben en fait, moi je voulais juste revenir sur une toute petite chose qui m'intéresse beaucoup dans ce que j'ai entendu de ce matin de la pièce de Franck et qui va être jouée tout à l'heure, c'est que ça, enfin on pourrait penser comme ça que du coup la musique est une sorte de prétexte à mettre en valeur le lieu, alors qu'en fait c'est une musique qui a elle-même évidemment un sens et une raison d'être aussi propre. Et pour moi, c'est quand même la tension entre les deux qui est intéressante. Et en fait, dans toute l'expérience de faire une musique dans un lieu donné ou de transcrire une musique pour des instruments donnés ou de la faire jouer par des personnes précises, c'est pas juste un prétexte à faire jouer telle personne ou à être dans tel lieu ou à faire entendre tel instrument, c'est quand même toujours une tension entre aussi une essence, un texte qui vient d'un artiste qu'il a créé, comment dire, aussi presque abstraitement. Donc c'est vraiment, pour moi, le cœur, il est dans la tension entre l'abstraction, par exemple, aussi, que possède la musique de Franck, et la concrétisation sonore. Pour moi, c'est vraiment le cœur de tout. Donc moi, effectivement, au festival, je fais des... En fait, il y a des élèves qui se sont inscrits, qui jouent d'un instrument, donc qui sont au conservatoire, qui apprennent leur instrument de manière tout à fait classique, a priori, et qui se sont inscrits. Et moi, je vais leur proposer de... Donc ils sont quatre violoncelles, trois altos, un violoniste, une trompette et une flûte. Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, c'est eux qui ont décidé de venir. Et moi, c'est ma base de données, et je vais leur faire des transcriptions sur mesure pour qu'ils puissent jouer des morceaux de rock, justement, et alors au sens large, c'est-à-dire aussi si c'est de la pop ou des morceaux plus de soul ou de R&B ou quoi que ce soit qu'ils aient envie de faire, en fait, je vais être à l'écoute. Donc je leur propose des morceaux à la première répétition qui a lieu demain. Et puis bon, je vais aussi attendre d'eux qui me demandent des morceaux qu'ils ont envie de jouer et qu'ils ne pourront jamais jouer dans leurs études, parce que c'est pas forcément quelque chose qui se fait encore beaucoup au conservatoire, et puis qu'il y a plein de choses à faire dans les conservatoires. Donc là, c'est un espace un peu où si il y a un violoniste qui a toujours rêvé de jouer telle chanson de Led Zeppelin parce qu'il est à côté, il est fan de rock, mais qui joue du violon et que c'est pas toujours facile, et ben là, ça va être un peu une chance pour lui de pouvoir explorer ce répertoire-là. Et du coup, là, ça pose une autre question encore qui il me semble intéressante, c'est la différence entre l'écrit, entre la musique qui s'écrit et la musique qui ne peut pas s'écrire ou qui résiste à l'écrit. Et parce que du coup, là, je vais faire des partitions de rock, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait, c'est une musique qui ne se fait pas sur partition. Ça va aussi être tout un travail de leur écrire des partitions et après leur dire, mais oubliez ce que j'ai écrit, vivez-le aussi comme les musiciens qui ont composé la musique le vivent, c'est-à-dire avec une liberté rythmique, sonore, etc.
Et du coup, c'est difficile de faire cette dichotomie entre ce qui est écrit et ce qu'on ressent, ce qu'on écoute et ce qu'on a, le feeling en fait.
Bah, c'est ça, c'est très difficile. Alors après, qu'on comprenne bien, c'est difficile aussi en musique classique. C'est pas parce que la musique classique est écrite qu'il n'y a pas une interprétation à faire revivre dans le son concret, dans le feeling, voilà, exactement, dans les nuances rythmiques. Il y a de toute façon quelque chose en musique qui ne peut pas s'écrire. Toujours, je pense. Sinon, ce n'est pas de la musique, quoi. C'est... Mais dans le rock particulièrement, parce que c'est carrément une musique qui ne passe à aucun moment par l'écrit. Enfin, il y a des exceptions, mais par exemple, les Beatles ne faisaient pas de partition pour leurs chansons, les Pink Floyd non plus. Donc, en fait, on passe par un relevé, donc on prend en dictée tout simplement ce qu'il y a sur le disque, et après on le fait rejouer. Sauf que il y a des subtilités, vu que ça n'a pas été écrit au départ, il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas d'outils graphiques pour le noter. On n'a pas d'outils de solfège. Voilà, pour le noter, c'est comme si je sais pas si c'est une très bonne comparaison, mais c'est un petit peu comme si on voulait transcrire l'accent ch'ti à l'écrit. Il y a des choses comme ça qui peuvent faire s'écrire. Et donc ça va être le travail intéressant aussi, parce que justement les élèves que je vais avoir, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise sors de la partition, oublie, pas forcément improvise, mais juste joue ça. T'as cette phrase-là, tu la connais par cœur, ferme ta partition et joue-la comme tu l'entends. Et ça passe aussi, donc, je pense, par l'imitation. Il faudra que je leur montre certainement des manières de jouer et qu'ils les reproduisent. Et ben voilà, on va explorer un petit peu tout ça.
Damien, as une question ?
Moi, il y a quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant, c'était l'idée qu'il y a des choses qu'on ne peut pas écrire, mm-hmm. mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas encore écrire ? C'est-à-dire que, est-ce que le solfège serait un peu resté en retard, et que par exemple la langue orale, donc la musique telle qu'on la joue, aurait pris énormément d'avance dans cette diversité qu'a pu connaître la musique au cours des derniers siècles, et est-ce qu'on n'aurait juste pas encore découvert ou encore inventé, parce qu'il y a encore un travail à inventer, ça a été tenté, je sais, en musique contemporaine, pour essayer de trouver des nouvelles manières d'écrire de la musique et tenter de mettre des signes sur ce qu'on ressent.
Non, dis-toi que c'est pas c'est pas la même question en fait. C'est pas une défaillance de l'un par rapport à l'autre, c'est pas le même secteur. La question, c'est l'information. Et une information, comment elle passe, quelle qu'elle soit. Elle passe, une partie passe par l'écrit, mais une partie passe par exemple, mes mains là expriment quelque chose. Le timbre de ma voix exprime quelque chose, le débit de ma parole exprime quelque chose, la hauteur de mon... Bon, etc. Et pourtant, je ne suis qu'en train. Si tu prends en dictée ce que je viens d'écrire, c'est plat et ça n'a pas d'intérêt. Si jamais d'un seul coup, je décide de parler comme ça, tu vas absolument comprendre autre chose. Et pourtant, je vais venir, si je décide de parler comme ça, tu viens de comprendre autre chose. Donc, on peut, par nature, quelle que soit la notation, on se coupe de 90% de l'information qui ne passe pas par l'écrit. Donc, oui, l'écrit est un support. C'est un support absolument... il y en a de plus ou moins faillibles, plus ou moins précis et de plus ou moins riches. Ils sont, bon, le mieux, c'est d'en avoir un le plus riche possible. Bon. Et là, on peut effectivement progresser. Mais tu progresses pour 10% de l'information. Tu ne progresses pas pour augmenter l'information. L'information, de toute manière, elle passe par ce qu'il a dit, c'est-à-dire par le fait de montrer un exemple, le fait de... physiquement, corporellement...
De ressentir,
etc. De parler de la même expérience... Non, l'écrit restera toujours limité à un segment d'information sur lequel il peut progresser, mais qui ne donne pas tout le message. Voilà, donc, ce n'est pas la peine de lui faire faire plus que ce qu'il peut. Mais le problème de la musique contemporaine, si on revient à ça, je trouve génial quand même qu'on soit dans une radio comme ça, libre, sans pub. Et surtout, je trouve génial qu'on se dise ces phrases-là, c'est-à-dire des choses qui sont quand même très pointues, ardues et qui sont complexes. À défendre dans un festival. Comme ça, ça prouve quand même. Moi, je reviens là-dessus parce que finalement, je vous remercie Damien et le festival, Fabrice et tous les bénévoles qui sont présents là-dedans parce que je me dis quand même, bon, ça porte bien son nom, mais ce qui est inouï, c'est pas tant ce qu'on entend, c'est que ça existe, de pouvoir se poser ces questions-là au moment où on est en principe à la plage et de voir que ça nous intéresse, ça nous anime, que ça nous donne envie de faire de la musique, de rencontrer des gens, de partager. Ça, pour moi, c'est ça la musique. C'est pas, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire vraiment cette tension-là. Là, on est en train de s'énerver sur l'écrit. Et moi, d'habitude, je le fais ça toute l'année, chez moi, tranquille, à ma table, et je suis tout seul. Donc, je trouve ça beau que ça puisse se partager, parce que finalement, c'est... On croit toujours que c'est des sujets qui sont un peu dépassés. Et je me rends compte que quand on demande aux gens avec lesquels on vit de partager nos enjeux, eh ben, si on est suffisamment généreux pour leur dire, ben, voilà, nous, on se pose ces questions-là, on se pose ces problèmes-là, on a affaire à ce type de limite et on a besoin d'en parler avec vous, eh ben, il y a toujours quelqu'un au bout. C'est quand on a l'attitude qui consiste à dire, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais qui consiste à dire, on n'a pas besoin de vous, nous on sait très bien se débrouiller tout seul, vous vous mettez là, vous payez 20 euros et vous écoutez ma symphonie ou mon trio et vous la fermez. Là, on n'a plus personne. Ben, c'est normal. Hein. Moi, je n'irai pas. Si je ne jouais pas, je n'irai pas. Voilà. Je crois que ce festival est absolument indispensable. Je sais qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de minoriser l'importance absolue des festivals comme lieu de rencontre et enfin de possibilité justement d'éviter les segments, les séparations entre les différents publics. Vous le faites là, mais je trouve que l'État, en tout cas les gens ne prennent pas la conscience de l'importance que ça a de fédérer les musiciens, le public, les gens ensemble tout simplement. Ils perdent, ils se tirent une balle dans le pied. C'est-à-dire que oui, ils vont arriver à, effectivement à un moment des gens qui vont avoir l'impression qu'ils ne parlent qu'entre eux et pour eux-mêmes. C'est évident. Et c'est ce contre quoi il faut vraiment lutter, que ce soit en augmentant la focale vers le rock ou ce que vous voudrez. Mais de toute manière, elle l'est de fait. On écoute cette musique. Dites-vous qu'il n'y a pas un musicien classique qui ne met pas sa radio. Il n'y en a aucun qui la met sur France Musique, si vous voulez. C'est pas pour nous, ça. Enfin, je caricature. J'écoute France Musique quand j'y passe. Mais, mais sinon, c'est pas... Moi, j'écoute Europe 1, j'écoute toutes les radios... Et j'écoute, évidemment...
PFM, bien sûr.
Pourquoi pas, hein.
PFM. Mais non, mais j'écoute tout ce qui peut me permettre je sais pas, d'être en contact avec mon temps, quoi, tout simplement. Et il n'y a pas de rupture. Il y a une rupture que quand on ne vous donne plus les subventions pour pouvoir faire votre travail. Et là, à ce moment-là, bah, vous êtes obligé d'aller dans les ghettos dans lesquels on vous dit d'aller. dans les segments dans lesquels... Et moi, j'admire que des gens tiennent le coup, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout de mise. On parle des grands programmes démocratiques, etc. Mais au fond, finalement, ce n'est pas ça qui est véritablement financièrement... pour mieux, on nous explique que c'est pas si important que ça, ce type de festival. On va nous expliquer qu'on peut gagner un peu là, un peu là, un peu là. Et en fait, on perd énormément à ne pas poursuivre ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que Nicolas, comme moi, on est logé, on mange et on repart. Donc tout se passe bien. Mais vous travaillez. Et vous travaillez pour ça, donc je vous remercie vraiment et bravo de vous associer à ça. Et ça me fait plaisir de savoir que je tombe dans ce type de radio et pas sur France Culture. Là.
Voilà, donc casser les codes, faire tomber les barrières et puis éviter justement l'académisme ambiant pour justement partager, échanger. Et puis humainement parlant aussi, c'est une belle aventure.
Parce que vous êtes exigeant, c'est ça que j'aime.
Bah, je vous remercie d'être passé par nos studios, Franck Kravzik et Nicolas Worms. Et puis,
merci beaucoup. Merci.
On vous retrouvera évidemment en représentation très bientôt. Merci Damien de m'avoir accompagné.
Merci Boris.
Et puis à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
C'était un entretien en compagnie des compositeurs Franck Kravzik et Nicolas Worms, réalisé à l'hôtel de Guine d'Arras depuis notre studio mobile.